Bien, chers frères, quelques mots à la suite de cette conférence de carême qui a été proposée à plusieurs prêtres par M. l'abbé Leroux, que je remercie de son invitation. Quelques mots assez simples, pardonnerai la simplicité de ce que je vais pouvoir vous dire. Les éléments que j'ai utilisés pour cette petite conférence sont la somme théologique, un exercice sur la messe du cardinal Journet, le missel traditionnel, ainsi que travail important qu'a fait M. l'abbé Coex, qui était notre professeur de liturgie au séminaire de la fraternité Saint-Pierre de Grasbach. Mon sujet sera la messe et le temps. Le Seigneur, en entrant dans le monde, a assumé tout ce qui en résulte, de la vie, de la mort, de la souffrance, du lieu, mais aussi du temps. Celui qui est hors du temps est entré dans le temps, du Dieu qui ne change pas. Dieu s'était lui-même désigné à Moïse comme « ego sum qui sum », celui « je suis celui qui suis, celui qui est, qui demeure, qui ne change pas ». Et bien de ce Dieu éternel, il s'est fait mortel, c'est-à-dire touché par le temps qui passe. Au point qu'il est une notion, un élément qui marquera sa vie terrestre, qui orientera sa vie, qui ponctuera sa vie. Il s'agit de son œuvre. Celui qui avait fait le temps et qui n'en était pas tributaire, s'en est fait le sujet. Mon heure n'est pas encore venue. Et puis, lors du jeudi saint, levez-vous, voilà l'heure. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le Christ vient se faire le pont entre l'heure qui passe et un temps nouveau auquel il nous appelle et qui, lui, ne passera pas. Point culminant de la vie du Christ et de la vie de tout homme, la croix du vendredi saint est un point fixe du temps de ce monde. À la suite de la croix, la messe sera le lieu, le cadre, où l'heure de Dieu rejoint l'heure de l'homme, où le temps prend un sens nouveau et rejoint ce qui est hors du temps, où l'éternel se retrouve impliqué dans le présent, où le présent de l'homme rejoint l'éternité de Dieu. Nous entrons dans le mystère de Dieu à la messe, où l'histoire rattrape notre actualité et où même le futur nous rejoint. L'économie sacramentelle nous fait entrer dans le mystère du temps en effet. La messe étant un sacrement et un sacrifice, il convient de commencer par définir, puis dire en quoi le sacrifice de la messe assume le temps, son rapport à l'acte passé du vendredi saint, du Golgotha, et puis quelle est l'action présente du Christ et des fidèles lors de la messe aujourd'hui, et puis en quoi la messe appelle à elle ceux qui sont déjà dans l'éternité, le futur qui vient jusqu'à nous, et puis en quoi nous dirige cette messe, nous dirige vers les biens futurs, et en cela, en quoi la messe est un événement déjà eschatologique. D'abord, quelques notions sur le sacrement en général. Selon saint Thomas, tout sacrement entretient, avec la grâce qu'il procure, une triple signification. Il remémore la cause du passé, la passion du Christ. Il manifeste l'effet de cette passion en nous par la grâce, aujourd'hui. Et il annonce la gloire future. Et parce que supérieur aux autres sacrements, puisqu'il contient le Christ lui-même, l'Eucharistie accomplit d'une manière excellente ce schéma de passion, de grâce et de gloire. À l'égard du passé, ce sacrement de l'Eucharistie commémore et représente le sacrifice accompli au calvaire. Par rapport au présent, le sacrement confère la grâce aux membres du Christ, les unit aujourd'hui d'une manière intime à leur chef et constitue le signe de l'unité de l'Église. Et puis l'Eucharistie préfigure une réalité à venir, l'état de gloire promis à ceux qui vivent et persévèrent dans la grâce. Voilà pour une sobre introduction. La transition suivante nous permet d'aborder la place de ce sacrement dans le culte rendu à Dieu le Père. Le culte du Christ, le culte total du Christ, consiste essentiellement en l'oblation sacrificielle qu'il a faite de lui-même au Père, dès le premier instant de sa conception, et qu'il a consommé de manière sanglante sur l'autel de la croix pour le salut des hommes, ce que nous allons vivre de près pendant la Passion. Au ciel, en son humanité glorifiée, c'est la même et unique oblation qu'il continue de présenter au Père, tandis qu'ici-bas, selon son commandement, cette oblation est chaque jour représentée et contenue dans le sacrifice eucharistique. On n'oublie pas que le sacrement de l'Eucharistie est le sacrifice offert par l'Église. Ce sacrement est le signe ou représentation du sacrifice du Christ que l'Église a reçu mission de célébrer et de perpétuer. Alors comment envisage-t-on le passé et le présent du sacrifice du Christ le rapport direct entre le Vendredi Saint et notre messe? Saint Thomas nous répond, dans le sacrement eucharistique, plutôt il pose la question, le Christ est-il immolé, c'est-à-dire à la messe, chaque jour qu'un prêtre monte à l'autel? Et saint Thomas répond oui, car il y a identité entre les deux immolations, celle du Vendredi Saint et l'immolation sacramentelle. Et saint Thomas cite saint Augustin, le Christ a été immolé une seule fois en lui-même, et cependant, il est immolé chaque jour dans le sacrement. Ainsi, l'immolation sacramentelle ne fait qu'une avec l'immolation du calvaire qu'elle commémore. La victime, Vendredi Saint et aujourd'hui, est une et identique. Seul le mode d'immoler diffère. Sanglant au calvaire, non sanglant à l'autel, selon le rite institué lors de la dernière scène du Jeudi Saint. C'est donc toujours le Christ qui agit à l'autel, c'est le Christ prêtre qui agit principalement, comme l'attestent les paroles intimatives de la consécration, c'est en son nom qu'une succession de ministres consacre dans le temps le corps et le sang du Christ. Maintenant, voyons la présence du Christ dans le présent, le rôle du Christ. On ne comprendra dès lors le rôle du Christ à la messe que si l'on comprend son rôle au ciel, le sacerdoce éternel du Christ. Les textes scripturaires nous disent que le Christ céleste, celui qui est au ciel en ce moment, continue d'intercéder pour nous. Saint Jean nous dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus, dit saint Paul aux Hébreux, est grand prêtre pour toujours, prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Du fait qu'il demeure pour l'éternité, il est capable de sauver pour toujours ceux qui, par lui, s'approchent de Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. L'Apocalypse nous montre, près de celui qui est assis sur le trône, un agneau, debout, comme égorgé, ayant sept têtes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et dans le cantique nouveau à la louange de l'agneau, il est dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu dans ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Quelle est donc cette manière dont le sacerdoce du Christ reste éternel, est éternel? Le sacerdoce du Christ est éternel sous plusieurs aspects. Il est éternel en ce sens que, tant que se continue le déroulement de notre temps historique, le Christ, qui est toujours vivant, continue d'intercéder pour nous, j'ai cité saint Paul aux Hébreux, et donc d'être notre avocat auprès du Père. Mais comment intercède-t-il? Serait-ce en réitérant sa passion et sa mort? Eh bien non, l'oblation rédemptrice étant parfaite, ne peut être qu'unique. Saint Paul aux Romains dit, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Serait-ce qu'il vit perpétuellement dans un état sacrificiel? Eh bien non, l'Apocalypse que j'ai cité ne dit pas que l'agneau est égorgé, mais comme égorgé. Et cela signifie, précise-t-elle, qu'il a été égorgé et qu'il a racheté par son sang des hommes de toute tribu. En conclusion, on peut dire que l'intercession du Christ céleste, celui du Christ du ciel, consiste à présenter au Père l'acte sacrificiel unique par lequel s'est accompli en une fois la rédemption et la salvation du monde entier et à dispenser au monde les richesses de cette unique rédemption. Le sacerdoce du Christ est donc éternel au second sens par la continuation, tant que dure le monde, de sa fonction médiatrice d'intercession auprès du Père. Son intercession et sa médiation consistent à vouloir éternellement ce qu'il a voulu sur la croix, à savoir, il continue de vouloir sauver tous les hommes par cette unique croix. En ce sens, le sacerdoce du Christ est éternel, il ratifie, il valorise progressivement au cours du temps le sacrifice unique de la croix du Vendredi Saint, dont la vertu inépuisable est de ce fait éternelle. Il faut ajouter que le Christ glorieux est présent à la messe en même temps que son acte rédempteur. À la messe, Le Christ est rendu présent sous les espèces sacramentelles par la transsubstantiation, premièrement et immédiatement, tel qu'il est en lui-même, c'est-à-dire dans son état glorieux. Il nous sera rendu présent à la messe, il y viendra dans son état glorieux pour actualiser à notre intention l'acte unique de la rédemption. Il y viendra avec son acte rédempteur, entre sa gloire et notre péché, il continuera d'interposer sa croix sanglante. L'efficacité du sacrifice de la croix étant souveraine, n'a pas à être complétée, mais appliquée, actualisée au cours du temps par le Christ. Quel est, en ce temps présent, le rôle des hommes? Eh bien, par l'offrande du sacrifice de la messe, la vertu perpétuelle de la passion continue d'opérer d'une manière toute spéciale le salut du genre humain. Le sacrifice eucharistique a pour objet d'appliquer les mérites infinis de l'offrande du Christ au bénéfice des hommes de tous les temps, perpétuant ainsi l'efficacité salvifique du sacrifice du Vendredi Saint. Je cite le cardinal Journet. Le Christ veut maintenant et jusqu'à la fin du monde, comme il le voulait sur la croix, que le rayon de sa croix sanglante, vienne toucher et racheter par ce contact chacun des moments du temps. Et aussi, je cite encore le cardinal Journet, le Christ est immolé à la messe parce que la messe nous apporte l'effet de sa passion, actualise pour nous sa passion, nous rend participants des fruits de la passion et accomplit à chaque fois l'œuvre de notre rédemption. Puisque les péchés doivent continuer, hélas, ils ne pourront être remis que par la présence, l'application, l'actualisation continuée à chaque génération de cette unique oblation du Christ. Selon le mot de saint Paul, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et saint Ambroise écrira, si nous annonçons la mort du Seigneur, nous annonçons la rémission des péchés. Si chaque fois que son sang est répandu, il est répandu pour la rémission des péchés, je dois toujours le recevoir pour que toujours il me remette mes péchés. Moi qui pêche toujours, je dois avoir toujours un remède. Pas d'autre oblation pour le péché, mais une présence, une application, une actualisation de cette unique oblation. Alors comment se font les choses? Eh bien, ici-bas, dans le temps de l'Église, tout membre du Christ, c'est nous et vous, de par la députation cultuelle reçue par le baptême, participe à l'offrande sacrificielle du chef, le Christ. Le fidèle du Christ, d'abord, s'unit au sacrifice de l'homme Dieu. Il fait sien les sentiments du Christ. Il offre à sa place la divine victime au Père éternel. Enfin, il s'offre lui-même avec le médiateur. Et puis, par sa communion, il bénéficie des fruits de la passion, il reçoit la grâce, et il est uni au Christ, qui l'agrège à l'unité de l'Église. On peut dire aussi que la messe est l'entrée existentielle d'une génération dans le drame de la passion, où sa place était marquée d'avance. Je le redis, c'est très beau. On peut dire aussi que la messe est l'entrée existentielle d'une génération, la nôtre, dans le drame de la passion où sa place était marquée d'avance. Toutes les grâces, pour tous les temps, sont précontenues dans la passion du Christ. Elles viendront, selon les modes, les degrés, la mesure prévue par le Christ et indiquée par lui, toucher une à une chacune de nos générations. Tout de suite, la génération immédiatement contemporaine, les apôtres à la Seine, la Vierge et saint Jean au pied de la croix, puis, tour à tour, chacune des générations ultérieures, jusqu'à nous et nos descendants. Elles auront pour effet de les éveiller et de les agréger au drame du calvaire. D'une part, en les intégrant à l'acte d'offrande unique du Christ, où leur place était marquée d'avance, voilà pour la médiation ascendante du Christ, et d'autre part, en les ouvrant à l'effusion unique de charité, obtenue quand s'ouvre le côté du Christ, mais pour être dispensée progressivement, voilà pour la médiation descendante du Christ. La messe, où chaque fois qu'annonçant la mort du Christ, maintenant glorieux, nous le rendons présent sous les espèces sacramentelles, c'est la vertu de la croix prête à s'épancher sur une génération pour la faire entrer existentiellement, avec toute sa foi et tout son amour, dans le drame de la passion, où sa place était marquée d'avance. Il y a deux types de présence au sacrifice de la croix, l'une temporelle et l'autre de contact spirituel, qu'il nous faut distinguer. À la messe, nous entrons dans le drame rédempteur et nous lui devenons présents. Mais peut-on parler d'une présence rigoureuse et réelle? Se pose la question du cardinal Journet. Peut-on réellement parler d'une présence rigoureuse et réelle de nous à un sacrifice offert il y a une seule fois, il y a 20 siècles? Nous en gardons le souvenir, n'est-ce pas? La seule manière pour nous de le rejoindre. C'est ici que nous distinguons, en opposition au simple souvenir, deux sortes de présence, l'une temporelle et l'autre spirituelle. La première est celle de tous les contemporains rassemblés autour de la croix il y a 2000 ans. La Vierge, le Saint Jean, certes, mais aussi des acteurs, des spectateurs du drame. C'est une présence de coexistence dans le temps, une présence de contemporanéité. La seconde présence est le privilège de la Vierge et de Saint Jean seulement. Ils sont touchés par la vertu spirituelle qui descend de la croix. Ils adhèrent eux seuls, par rapport à tous les autres qui sont là ce jour-là, au mystère qui s'accomplit sous leurs yeux. Ils entrent par l'intelligence de la foi et l'élan de leur charité dans l'intériorité du sacrifice rédempteur. Eh bien, vous l'avez compris, c'est à cette présence-là que nous pouvons toucher. On peut noter que l'unique sacrifice rédempteur récapitule, en ce qu'elle a de valable, l'offrande des hommes de tous les temps. Une récapitulation rétrospective et une récapitulation prospective. Avant la croix, après la croix. Tout le monde est compté au calvaire. Au lendemain de la chute, la croix, dit le cardinal Journet, qui est un poète, en fait d'être un théologien, est déjà levée sur l'horizon de l'histoire. Et c'est en considération de la passion future de son Fils que Dieu envoie aux hommes l'inspiration secrète, leur suggérant le culte qu'ils ont à lui rendre. Tout sacrifice accepté envers Dieu dans les temps anciens, déjà, seront christiques, obscurément sans doute, mais réellement, tirant du Christ par anticipation leur puissance de supplication et leur vertu salutaire. Selon saint Irénée, la récapitulation de tout le sang des justes et des prophètes versé en Abel et depuis le commencement du monde s'accomplit quand est versé le sang de Jésus. Pareillement, saint Thomas voit dans l'effusion du sang de tous les justes qui ont vécu depuis les origines que le Christ visitera au limbe une préfiguration, l'effusion du sang du Christ. Une préfiguration de l'effusion du sang du Christ. Voilà pour la récapitulation rétrospective. La récapitulation prospective, celle du futur, l'unique offrande rédemptrice, suscite d'avance, assume d'avance, récapitule plus mystérieusement, plus intimement, plus plénièrement encore, l'offrande des temps à venir, par manière, cette fois, d'application, de dérivation. Enfin, où en est le futur et où en est le ciel? L'intervention du ciel à la messe. Il y a une église du ciel. C'est non seulement l'église terrestre, mais encore toute l'église céleste, des anges et des élus, que le Christ invite à participer, suivant le mode qui leur est propre, à l'offrande qu'à chaque messe, il fait de lui-même à Dieu pour le salut des hommes. D'abord, les anges. Le Seigneur est le Seigneur des anges. Comment ne s'unirait-il pas à la plus solennelle des prières qui se rassemblent autour de la croix pour monter de la terre vers le ciel? Non qu'ils puissent, au sens propre, co-sacrifier avec nous, co-offrir avec nous le sacrifice même de la messe, mais ils peuvent intercéder pour nous qui cheminons dans la nuit du temps, demander et obtenir que notre offrande soit plus intensément méritoire, satisfactoire, expiatoire, co-rédemptrice, et que nous participions avec un cœur plus magnanime à la passion du Sauveur. À la préface des messes, l'Église terrestre unit son action de grâce à la louange que toutes les armées célestes rendent par le Christ au Dieu Tout-Puissant et Éternel. Un peu avant, pendant la messe, elle a demandé que par l'intercession de l'archange Michael et des élus subordonnés à l'intercession majeure du Christ, Dieu veuille bénir et agréer l'encens, symbole de la prière qu'elle fait monter vers nous. Et un peu après, au supplices et rogamus, l'Église va demander que les offrandes, c'est-à-dire ce même Christ voilé sous les espèces du pain et du vin, déjà dans la transsubstantiation, soient portées par la main de l'ange sur l'autel céleste, c'est-à-dire qu'il soit accepté par Dieu par la médiation de l'ange. Voilà pour les anges. Ensuite, il y a les saints du ciel. L'Église terrestre demande, soit avant la consécration, au Suscipe Sancta Trinitas et au Communicantes, soit après, au Liberanos, Jesus, que Dieu veuille bien tenir compte des mérites passés et des prières présentes de la Vierge et des apôtres et des martyrs. Il faut entendre, dit encore Bossuet, qu'à la vérité, il y a au ciel des intercesseurs qui prient avec nous. Ainsi le Christ, qui, au moment de la messe, met en action le ciel et la terre pour les réconcilier dans le sang de sa croix, suscite dans son Église céleste le désir d'intervenir en intercédant pour l'Église du temps, et dans celle-ci, qui offre, au sens propre, le besoin d'implorer le secours des anges et des saints. Voilà pour cette intervention du ciel vers la messe. Et maintenant, la messe, en tant qu'elle nous oriente vers le ciel. La Pâque chrétienne, célébrée sous les signes sacramentels dans l'exil de la foi, annonce à son tour la Pâque céleste de l'au-delà. Le festin du royaume eschatologique, où les signes sacramentels se seront évanouis pour faire place au rassasiement de la vision et à l'ivresse de l'amour béatifique. Je ne mangerai plus cette Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. La Pâque chrétienne est un mystère messianique et eschatologique. On rejoint saint Thomas par l'économie de la loi ancienne, de la loi nouvelle et de la patrie. Le statut de la loi nouvelle, dit saint Thomas, est intermédiaire entre d'une part le statut de la loi ancienne, dont les figures viennent s'accomplir dans la loi nouvelle, et d'autre part le statut de la gloire, où la vérité tout entière se manifestera à découvert et pleinement. Aussi n'y aura-t-il plus alors de sacrement. Mais maintenant, nous connaissons par miroir et en énigme, c'est par des signes sensibles que nous accédons aux choses spirituelles. Et telle est la raison des sacrements. La Pâque chrétienne, la scène, la messe, est un mystère messianique. Et en tant qu'elle annonce à son tour ce qui doit venir, et donne, sous les symboles, la plénitude et l'ivresse de la patrie, elle est un mystère eschatologique. Elle est instaurée au seuil du dernier âge, dit le cardinal Journet, toujours poète. Elle est instaurée, cette messe, au seuil du dernier âge du monde, pour colorer du sang du Christ le fleuve du temps, avant qu'il ne débouche dans l'éternité. L'immense espérance qui avait soulevé l'Ancien Testament, la venue trop brève du Messie, n'a fait qu'enflammer davantage et la porter à un point d'intensité qui la rend consumante au cœur des saints. Ils appellent la seconde parousie plus ardemment que les prophètes n'attendaient la première. Le révertéré de l'épouse, dit le cardinal Journet, c'est le vrai cantique de l'Église, comme ces autres mots, venez, approchez, montrez-vous, percez les nuées sous le cantique de la synagogue. Celle-ci ne l'a pas encore vue, mais l'Église l'a vue là où il l'a touchée, et il s'en est allé tout à coup. Elle avait tout quitté pour lui. Voilà, dit l'apôtre Saint-Pierre, que nous avons tout quitté pour vous suivre. Jésus, ensuite, l'avait épousée, prenant sa pauvreté et son dépouillement pour sa dot. Aussitôt après l'avoir épousée, il meurt. Et s'il ressuscite, c'est pour retourner d'où il est venu. Il laisse sa chaste épouse sur la terre, jeune veuve désolée, qui demeure sans soutien. Que peut-elle faire autre chose, sinon de crier sans cesse « Révertérez, révertérez, retournez, retournez, ô divin époux, hâtez ce retour que vous nous avez promis. » C'est pour cela que toutes les entrailles de l'épouse ne cessent de soupirer après le second avènement de Jésus-Christ. Le cardinal disait encore « La messe annonce ce qui doit venir, elle est instaurée au seuil du dernier âge, je le redis, pour colorer du sang du Christ le fleuve du temps avant qu'il ne débouche dans l'éternité. » Qu'on me permette une simple conclusion que je tire principalement de notre cher abbé Coex, à qui je confie de prier pour lui, de prier pour son âme, puisqu'il est retourné à Dieu. Le Christ, qui s'est immolé lui-même une fois pour toutes sur le calvaire, s'immole chaque jour dans le sacrement. Tandis qu'élevé au-dessus des cieux, notre grand prêtre est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, consommant en son humanité glorifiée sa médiation sacerdotale. Vrai et authentique sacrifice, célébration de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le sacrifice de la messe est, comme l'a formulé Bossuet, une application perpétuelle du sacrifice de la croix, semblable à celle que Jésus-Christ a fait tous les jours au ciel, aux yeux de son Père, ou plutôt, c'en est une célébration continuée. Cette application et célébration, l'Église a reçu la mission et le pouvoir de l'accomplir, et ce, jusqu'à la fin des temps, de sorte que les fidèles de Christ, toujours et partout, puissent recevoir les bienfaits de la passion rédemptrice. En effet, parce qu'il contient le culte très parfait du Christ, par lequel les péchés sont rachetés et les biens spirituels prodigués, le sacrifice eucharistique établit un contact très étroit, qu'on peut dire physique, entre l'homme racheté et son Dieu. À la messe, les fidèles adorent Dieu avec les sentiments, les prières et les gestes du Sauveur et de son Église. Ils sont admis à offrir avec toute l'Église, sous les espèces visibles du pain et du vin, le sacrifice même de Jésus, par lequel ils sont comblés de toute bénédiction céleste et de toute grâce, et rendent ainsi à Dieu tout honneur et toute gloire. Par la communion aux précieux dons offerts et transsubstanciés, ils jouissent de la divine présence, présence cachée mais néanmoins réelle, et reçoivent le gage de la gloire future. La messe, parce qu'elle contient tout cela, et bien plus encore, nous l'aimons, tout y a un sens, tout porte du fruit. Jusqu'à ces moindres détails liturgiques qui nous orientent à entrer dans le mystère du salut et à en vivre, et à nous en rassasier, s'il est possible, pour entrer définitivement, à la fin de notre temps, dans l'éternel présent de Dieu. Pour toutes ces raisons que nous n'avons ici fait qu'esquisser, nous nous sentons, dit encore l'abbé Coëx, profondément liés aux traditions liturgiques et d'une manière spéciale au rite romain de la messe, tel que l'a codifié saint Pie V. Nous ne pouvons en aucun cas renoncer à un patrimoine qu'ont lentement édifié la foi de nos pères, leur dévotion ardente et la réflexion théologique autour du sacrement de la Passion du Seigneur. Au contact de cette messe, où nous voyons aussi le plus pur chef-d'œuvre de la civilisation occidentale, hiérarchique et sacrale, nos âmes s'élèvent et nos cœurs se dilatent, tandis que nos intelligences goûtent la doctrine eucharistique la plus authentique. C'est pourquoi nous voulons connaître et aimer toujours davantage la messe, notre trésor, et nous n'aurons ici de cesse de la défendre et de la promouvoir. Je vous remercie.